patrimoine et spirituality. Patrimoine et spirituality, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour amis auditeurs.
Comment allez-vous ?
Eh bien, je vais très bien. Nous traversons une période difficile, mais je vais très bien.
Voilà, et grâce à la radio, on peut rester connecté.
Vous avez tout à fait raison.
Alors aujourd'hui, vous nous amenez toujours grâce à Gilles Lade, c'est ça ?
Voilà, nous reprenons la lecture d'ouvrages de Gilles Lade, qui est un auteur du Figeacois, du Lot du moins. Il est né à Figeac en 1949. Il a beaucoup produit, beaucoup écrit, si bien que en 1994, il a obtenu le prix Antonin Artaud avec les Forges d'Abel. Et la dernière fois, nous lisions Le Chemin de Buy. Aujourd'hui, nous allons continuer ces lectures qui sont de véritables poèmes en prose, de véritables tableaux de peinture. Et aujourd'hui, nous allons lire Rocamadour, le sanctuaire et le gouffre. J'ajoute que Gilles Lade a produit une anthologie des poètes du Quercy en 2001 et un très très beau livre, Les jardins de la vicomté, qui est illustré par un peintre. Voilà, alors ce livre, vous pouvez le trouver aux éditions Tertium.
Très bien.
Alors nous chaussons nos croquenots.
Voilà, c'est ça.
Et nous allons visiter Rocamadour et ses abords.
Tout à fait. Allons-y.
Rocamadour fait face. Martelé de lumière ou buriné par l'ombre, porté du soir. C'est ici, dans ce saisissement brusque et rendu assurément bien plus fort par la nudité des lieux au Moyen-Âge, que les pèlerins pénitents se prosternaient, leurs chaînes pénitentielles autour du cou. Ils ne se délivreraient de ce signe de la faute et du péché qu'une fois le parvis des sanctuaires atteint. Rocamadour était le terme d'un pèlerinage assez libre, où les fidèles originaires de toute l'Europe se mêlaient à ceux qui, venant particulièrement des Flandres et même de Lettonie, vous rendez compte, accomplissaient leur peine judiciaire. À quel moment faut-il venir au belvédère de Rocamadour pour effacer toutes les photographies rencontrées et subies ? Le moment de la contemplation la plus vraie sera peut-être le moins prémédité. Ainsi de la mer, côtoyée tant de fois sans émoi, ainsi du ciel, dont le bleu s'éternit par consentement routinier. Or, l'évidence du beau, avec un B majuscule, parfois fulgure et semble expliquer du plus profond les formes du monde. Il en sera ainsi pour Rocamadour qui surgira de l'immobilité de cette perspective imposée. Serons-nous en voiture ? Marcherons-nous ? Quel aspect du site nous saisira ? Ses proportions, sa beauté graphique et plastique ? Je ne sais. Sans doute plus simplement, plus immédiatement encore, son émotion. Car ce rocher, ces pierres sont devenues une vaste et complexe pensée. Une pensée où l'œuvre humaine, l'amour humain ne sont pas seuls. Notre-Dame de Rocamadour, Sainte Amadour, font frémir la pierre d'un autre infini que celui des proportions d'or et des nuances poudreuses de la roche et du temps. L'attente et le murmure inévaluable des pèlerins présente le site dans la fixité d'un rême spalmodié le long des routes. Et l'émotion contemplatrice qui brisera le sommeil de l'apparence, la masse du rocher légèrement tournée vers nous, ornée, embellie de toute sa claire et obscure complicité, eh bien, elle jaillira aussi du fait que nous aurons reconnu ce point central, ce point de fuite et d'aboutissement que constitue l'énigmatique et massive bâtisse de la basilique. Aveugle, presque à la considérer de loin, à peine aérée de quelques fenêtres irrégulièrement placées. Maison de pierre contre la pierre. Abri qui retentit sourdement, intimement, du souffle des hommes montés là-haut, entre vide et falaise, tout près d'une chapelle qui fut à l'origine une cella, c'est-à-dire un nid, une cellule d'adoration et de recueillement confiée à la solitude dans le haut Moyen-Âge. La plus puissante des demeures de Rocamadour est aussi la plus sobre. Ses hautes murailles carrées, coiffées d'un toit à la manière d'une grande maison, cachent le trésor de la foi. Or, cette conque de pierre, à l'intérieur de laquelle se poursuit le dialogue spirituel, est à l'extérieur la plus éclatante, la plus exposée, aux pleines journées des grands étés. Profondeur humble de l'invisible et gloire de soleil épuré par l'austère génie du lieu. Mais que le regard se déprenne de l'église et toute la façade du rocher, tout le village bâti, du château jusqu'à l'Alzou, s'impose et vive, insaisissable totalité. Tantôt flambe la pureté rocheuse du surplomb, la roca major, la roche majeure, cette falaise qui se voit de loin, bien dégagée du canyon, et qui rompt avec le gris des autres murailles de la vallée. Tantôt, les yeux s'accrochent au curieux composé que présente l'ensemble appelé château. Les murailles du XIIIe siècle, rejointes par un escalier vertigineux, émergeant du toit de l'église, la résidence des chapelains du XIXe, et le mince campanile qui est comme le clocher suprême de tout l'ensemble religieux. Frais le signal, évident et limpide, qui contraste avec la gravité de la basilique. Des rêves de chevalerie semblent arrêtés sur le surplomb du Causse, comme si une histoire, à force de hanter par bribes ces lieux, avait suscité les formes qui la rendraient plausible. Le brassage humain de la rue principale, avec sa rumeur perceptible de loin l'été, fascine tout autant. Il se déroule sur le fond du relatif désordre des maisons, au pied des verticales de la solennité sacrée, mais aussi du socle géologique. La chronique humaine et domestique, racontée par maintes demeures, semble se mirer dans la verte douceur du val d'Alzou, que clôt un peu sévèrement en aval la haute tour du moulin de Roquefraîche. La grande façade de Rocamadour respire dans les heures de la journée, qu'elle s'assombrisse et l'angoisse saisit le cœur et le corps, que janvier l'accable de pâleur ou que le crépuscule efface la plupart des reliefs, et l'on est emporté vers l'étrange. L'on éprouve la nécessité de s'approcher et de continuer ce face-à-face en descendant la voie sacrée, cette route rectiligne et très pentue qui joint l'hospitalier à la ville basse. Insensiblement, la carte postale et la puissante gouache s'animent. Les reliefs, les éléments s'en détachent avant de s'offrir dans leur noblesse ou leur banalité. Au moment d'entrer dans la ville, cédons pour un temps à l'attrait du vallon, sur la gauche, qui prend la forme de grands prés de Pâques. Les cartes n'indiquent pas toujours que le cours de l'Alzou est intermittent. Seules les grandes pluies finissent par remplir son lit, jusqu'à former de violentes crues qui submerge ponts et passerelles. N'y a-t-il pas là, dans ce torrent immobile et sec, dans cette présence dérobée de l'eau, les grands arbres des rives attestent son fidèle et secret passage, un symbolisme palpable et d'autant plus intense ici, la recherche de Dieu n'est-elle pas avant tout promesse? L'aridité n'est-elle pas la compagne inévitable du quêteur d'absolu? L'eau et l'absence d'eau, comme la plénitude et le doute, la réconciliation et le remords, l'évidence et l'absence. Nulle part en Quercy ne se trouve sur une aussi haute longue étendue cette alternance d'eau courante et d'assèchement. Plus loin seulement, plus loin, l'eau reparaît dans de grandes vasques, comme un écho en ces terres bucoliques et bibliques des paroles du psaume 114. « Tremble, terre, devant la face du Maître, devant la face du Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le caillou en source. » Et là, devant Rocamadour, le lit de cailloux est mesuré et paisible, les pierres orientées gardent encore la trace du flot qui visait au loin les retrouvailles avec une eau pérenne, cette eau toujours annoncée par le fond vert de la vallée. Dans la canicule qui arase le Causse comme un fer de hache, la couleur des prés est la promesse et le port le terme du tourment. L'on pourrait dire, pour nommer la cité Rocamadour sur Alzou, car en ces lieux de pierre omniprésente, c'est la présence et le passage de l'eau qui rassure, qui accompagne, comme une douce, furtive, enfantine voix en contrepoint à la solennité du sanctuaire. Tel qu'il est, tel qu'il passe, devant nous, abstrait comme un elfe, puissant comme un soc à la ruée imprévisible, l'Alzou donne un fond à nos pensées, à la manière d'un cœur dont les paroles murmurées seraient de réconfort et d'accueil. Mais d'ici, tout au bas de Rocamadour, partons en rêverie vers sa source, ce ruisseau vient d'un vert pays, proche des premières hauteurs de la châtaigneraie. C'est d'abord une eau des prés qui sort toute drue des marées scintillantes de Bonnefond, suscitant une suite rapprochée de lavoirs et de fontaines. Des surprises, comme au pied d'un pigeonnier hexagonal, la présence de murets du Causse au milieu des grandes prairies, ou bien ce nom de lieu-dit « Force » qui domine les marées. Vers l'aval, montent les premiers paliers du canyon. Tout se passe comme si deux puissances s'étaient heurtées de face. Mais aucune n'ayant pu prendre l'avantage, elles se sont un peu reculées tout en continuant à se défier. L'on sait que l'on se dirige vers un lieu singulier, étonnamment aménagé par l'homme, un étranglement rocheux doublé d'une profonde chute d'eau où fut installé le moulin du Sceau. Quand on s'en approche par l'amont, les bancs de roches de la rive opposée, à travers les feuillages, fascinent comme une eau mauvaise. L'on goûte un temps la douceur du chemin retrouvé, puis, au hasard du spectacle environnant, surgit une souche de buis svelte et triste, comme un sapin. Seul, le hasard ou une vive curiosité permettront aux marcheurs de découvrir, soutenant le sentier du ruisseau, une muraille parfaitement appareillée, masquée de mousse et de fougères. Rien n'indique non plus à celui qui traverse un pont placé là que l'ouvrage soit établi sur des assises quasi romaines. Il faut parvenir dans le lit de l'Alzou pour prendre la mesure du chaos. D'énormes pierres chevauchantes semblent continuer d'onduler sous la poussée d'énormes crues. Alors, dans le suspense des forces assoupies, quelque chose chante sur la petite roche. C'est bien peut-être un oiseau, ou encore un effet du vent, ou tout simplement la lumière qui s'évertue à se dresser. Brève torche dans l'herbe sèche, comme une impatience dévorante à devoir rester là, si belle et ignorée dans ses gorges.
Chantal, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission avec toujours ces textes de Gilles Lade.
Voilà, eh bien, ce sera un grand plaisir pour moi de vous retrouver, Armand, et vous aussi, chers spectateurs.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.